Bienvenue dans le débat. Imaginez que le destin de votre nation, donc son indépendance pure et simple, ne tienne qu'à, disons, 2300 petits bulletins de vote.
C'est un chiffre assez vertigineux, oui.
Complètement. En mai 2006, le Monténégro n'a pas seulement voté pour se séparer de la Serbie, le pays a dû surmonter un obstacle mathématique inédit imposé par l'Europe, la fameuse barre des 55% de votes favorables.
Ce qui n'est pas rien sur le plan institutionnel.
Exactement. Et personnellement, je suis convaincue que ce seuil exceptionnel était un filet de sécurité indispensable, une forme de diplomatie pragmatique qui a, concrètement, évité un bain de sang. Je défends l'idée que c'était un succès.
Alors, je vois bien l'idée, mais pour moi, l'Union européenne a délibérément incliné le terrain de jeu. Exiger 55%, c'est affirmer qu'un bulletin non pèse mathématiquement plus lourd qu'un bulletin oui. Je soutiens que c'est une véritable anomalie démocratique qui a fracturé la nation.
On peut se demander de quel droit Bruxelles impose ce genre de règles, c'est vrai. Mais regardons la mécanique derrière tout ça. L'envoyé de l'UE, Miroslav Lajčák, n'a pas sorti ce chiffre au hasard.
Vous pensez à une stratégie spécifique de sa part ?
Oui, en fait, l'Europe a agi un peu comme un ingénieur en bâtiment. En exigeant cette super majorité, il voulait construire des fondations antisismiques. Si ça passait, l'indépendance serait si indiscutable qu'elle résisterait aux répliques nationalistes de Belgrade. Le but absolu était d'éviter une nouvelle Bosnie-Herzégovine.
Je comprends l'argument sécuritaire européen.
D'autant que, sur le terrain, Milo Djukanovic avait déjà créé une souveraineté de fait. Il avait purgé les unionistes de l'appareil d'État et surtout adopté unilatéralement le mark allemand, puis l'euro. L'indépendance financière était déjà là. Le vote ne faisait que l'entériner, en fait.
L'entériner, oui, mais à quel prix institutionnel ? Votre fondation antisismique, elle a surtout déclenché une course aux armements démographiques absolument folle.
Comment ça, une course aux armements ?
L'astuce, c'est que ce seuil de 55% se calculait sur les électeurs inscrits en interne, pas sur la population globale. Podgorica ne pouvait pas baisser cette barre européenne, alors ils ont simplement manipulé l'équation.
Ah, en jouant sur la diaspora, c'est ça ?
Exactement. Sachant que la loi excluait 250 000 Monténégrins résidant en Serbie, donc des électeurs potentiellement unionistes, le gouvernement a affrété en urgence des trains et des vols spéciaux depuis l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Ils ont rapatrié leur diaspora, notamment bosniaque et albanaise, juste pour le jour du vote. C'est de l'ingénierie électorale pure pour compenser la symétrie de l'UH.
C'est vrai que la manœuvre était massive. Mais attendez, cette logistique spectaculaire prouve justement que l'enjeu a mobilisé la population comme jamais. On parle quand même d'une participation de 86,5%. C'est énorme.
C'est un record absolu, c'est indéniable.
Oui, mécaniquement, quand presque 9 électeurs sur 10 se déplacent pour un scrutin aussi existentiel, la légitimité du processus devient inattaquable. Cette ferveur valide le résultat bien plus qu'une élection classique.
La forme est belle, c'est sûr, mais elle cache une fragilité vertigineuse. Le oui a franchi la ligne à 55,5%.
Oui, ça s'est joué à un fil.
Un demi-point au-dessus du couperet. C'est là qu'on retrouve vos fameuses 2300 voix d'écart. Et regardez l'anatomie même de ce vote. La carte électorale a été littéralement fracturée en deux.
Avec une vraie différence entre le nord et le sud.
Absolument. Le sud côtier et les minorités ont fait bloc pour l'indépendance. Mais le nord montagneux, adossé à la frontière serbe et galvanisé par l'église orthodoxe, a rejeté la séparation avec des scores dépassant parfois les 70%. Le seuil européen n'a pas pacifié le pays. Il l'a mis sur une poudrière en figeant cette division.
C'est vrai, la carte montrait un pays coupé en deux, je vous l'accorde. Mais regardez l'alternative. Cette ligne de crête validée par ces règles draconiennes, c'était vraiment le seul pare-feu définitif.
Un pare-feu, vous êtes sûr ?
Oui, car en réussissant ce pari mathématique, le Monténégro a coupé court à toute contestation légale de Belgrade. La preuve incontestable de l'efficacité de ce mécanisme, c'est que la transition a été totalement pacifique. Le pays est devenu le 182e membre de l'ONU à peine un mois plus tard.
La reconnaissance internationale a été foudroyante, je ne dis pas le contraire. Mais le coût domestique est faramineux. Ce mécanisme des 55% a laissé une cicatrice qui paralyse encore la politique actuelle.
Vous pensez aux tensions démographiques d'aujourd'hui ?
Tout à fait. Prenez les débats chroniques sur le recensement national ou sur le statut de la langue officielle. Ils ramènent systématiquement le pays à ce clivage de mai 2006. Pendant qu'une moitié du pays tirait des feux d'artifice, l'autre moitié regardait le ciel avec le sentiment amer de s'être fait voler son propre pays par une formule mathématique.
C'est la dure réalité des naissances de nations. Mais pour moi, ce référendum illustre magistralement comment la diplomatie préventive, avec une simple contrainte numérique, a réussi à éteindre pacifiquement les derniers feux yougoslaves.
Et je maintiens que le lourd tribut de cette ingénierie, c'est une société qui est toujours à vif. Ça prouve que les pourcentages, aussi habiles soient-ils sur la scène internationale, ne résolvent jamais en profondeur les crises identitaires.
C'est un débat fascinant, hein ? Comprendre les mécanismes subtils de ce scrutin reste indispensable pour saisir toute la complexité de l'autodétermination moderne. C'est une réflexion qu'on vous invite à poursuivre de votre côté, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis.